Pauline Pucciano, Paradict, 19 septembre 2071. Zoom sur Terence Oxford, humaniste et gentleman. Les relations diplomatiques se tendent entre la Chine et la World Administration sur la question de la dette. Sixième extinction massive, disparition officielle des tortues luttes. Alvar, le dimanche suivant, arriva à midi pile chez son père. Abel et Elsie n'étaient pas encore arrivés, mais Francis Costa, ancien haut fonctionnaire de la WA, était déjà tout empli d'eux et n'avait que leur nom à la bouche. « Tu te rends compte, c'est énorme ce qu'on propose à ta sœur. J'espère qu'elle s'en rend compte. Il faut qu'elle accepte. C'est le genre de proposition qu'on ne reçoit qu'une seule fois dans sa carrière, et encore quand on a beaucoup de chance. » « Elle a toujours été ambitieuse, pourquoi n'accepterait-elle pas ?» demanda Alvar d'un ton las, tout en aidant son père à fermer tous les volets roulants de l'appartement. « Ils ont dit à quelle heure devait passer la tempête ?»« C'est énorme, énorme ! Je suis très honorée pour elle !» Alvar respecta un silence de quelques secondes avant de revenir à la charge. « Et la tempête ?»« Ils ont annoncé qu'elle serait à son pic entre 13h et 16h. Je vous conseille de rester dîner, non ? Ce serait plus sûr pour tout le monde. » « Je ne sais pas pour les autres, mais moi je ne pense pas. J'ai affaire ce soir. » Francis s'arrêta un moment pour considérer son fils. « Ah bon ? Qu'est-ce que tu as à faire ?» Alvar ne pouvait pas répondre qu'il avait un rendez-vous dans le Paradict. « Rien, des bricoles pour une nouvelle enquête. » « Ah ! Et ton frère alors, quel tueur ! Une vraie bête à concours, celui-là ! Même Elsie n'a pas été aussi bien classée. » « Oui, Abel est très brillant, » convint Alvar. Avant de fermer le dernier volet, il jeta un œil au ciel qui s'assombrissait vers l'ouest. Les tempêtes, depuis son enfance, l'avaient toujours fasciné. Il actionna presque à regret le volet rétractable en fibre de titanium qui recouvrit toute la façade de l'étage d'une structure noire et brillante, à l'épreuve de vent à 400 km/h. Il se mit à écouter son père d'une oreille distraite, mais son esprit était parti là-bas, au loin, chevauchant les nuées noires. « Tu vois, Elsie a toujours été une fille très intelligente, très mûre, très organisée. Mais Abel, Abel, c'est un zèbre. C'est quelqu'un qui a toujours pensé différemment. Même quand il était... » Il s'agissait toujours du même schéma, de la même inexorable progression. D'abord, le calme devenait étouffant. Puis, la lumière changeait, presque comme pour une éclipse, et le monde sombrait dans un contraste violent. Il y avait un long moment de transition, avec des éclairs silencieux, dans un paysage immobile, comme à l'approche de la fin du monde. Et puis, alors que le vent retenait son souffle, tout se mettait soudain à déferler. Et cela commençait par un grondement fantastique. Avec ta mère, on se faisait souvent la remarque. Abel sera un grand inventeur ou un grand artiste, disait-elle toujours. Et moi ? Demanda Alvar sans y penser. Que disait-elle de moi ? Francis Costa se sentit presque agressé par cette question. N'était-il pas en plein développement d'un sujet qui lui tenait à cœur ? Et puis, que répondra Alvar ? Elle disait que tu ferais un homme de premier ordre, mentit Francis. Alvar fit une moue dubitative, mais ne répondit pas. Un homme de premier ordre, ça ne ressemblait pas au vocabulaire de sa mère. Ça ressemblait plutôt à la langue de bois administrative de son père. Un collaborateur de premier ordre, à qui l'on décernait sans conviction la plus petite décoration possible. Mais ce léger incident n'arrêta pas son père, qui avait sans doute estimé se fendre d'un grand compliment. « Quoi qu'il en soit, je suis extrêmement fière qu'il ait choisi l'Intel Agency. Je crois que c'est une grande première dans la famille. Aucun agent du renseignement avant lui. C'est tout de même quelque chose. Bon, dans ta branche, nous avons quand même mon père, qui était commissaire divisionnaire, et dans celle d'Elsie, la sœur de ta mère, qui a fait une carrière, certes dans l'ombre, mais tout à fait respectable. »« La pauvre tante Bess, » songea Alvar, encore un canard boiteux. Les éclairs avaient commencé à se multiplier, comme un feu d'artifice allumé par un dieu démon. Depuis la fenêtre de son père, dans le 22e arrondissement, on ne voyait presque aucun arbre au milieu des bâtiments de métal. Victor Hugo frappait, doucement, à la porte de son esprit. La rumeur approche, l'écho la redit. C'est comme la cloche d'un couvent maudit, comme un bruit de foule qui tonne et qui roule, et tantôt s'écroule, et tantôt grandit. « Alvar, tu m'écoutes ?» « Non, excuse-moi, j'étais ailleurs. »« C'est fou, ça, d'être dans la lune comme ça, tu as toujours été dans la lune. » Alvar soupira et ferma à regret le volet. Il se sentit immédiatement pris au piège et ressentit un besoin presque physique de se connecter. Mais sa famille était religieusement technophobe et il lui faudrait prendre son mal en patience. L'après-midi promettait d'être longue. Heureusement, le tête-à-tête avec son père ne dura pas, car Abel arriva, passablement mouillé, vers 12h30. Toujours un peu en retard, juste ce qu'il fallait pour se faire désirer. Alvar eut un moment de répit pendant les embrassades du père et du fils. La litanie des félicitations de son père semblait ne pas devoir prendre fin. Puis Francis, après une sixième claque virile dans le dos de son cadet, les laissa seuls pour préparer l'apéritif. « Papa ne me sert jamais d'apéritif quand je suis seule avec lui, » observa Alvar. « On attend toujours que l'un de vous deux arrive. » « Je suppose qu'avec mes résultats, il n'a pas pu s'empêcher de te faire le coup du zèbre ?» demanda Abel avec un air malicieux. Il avait un sourire si généreux et une telle gueule d'ange. Comment leurs parents ne l'auraient-ils pas préféré ?« Non, bien sûr, » dit Alvar avec un sourire triste. Abel se lança dans une imitation passable de leur père. « Abel est un zèbre, il a toujours pensé différemment !» Et les deux frères éclatèrent d'un rire un peu forcé. « Ton enquête ?» demanda Abel. J'ai fait les examens d'usage sur l'ordinateur et sur le corps, et pour le moment, cela n'a rien donné. Le code était un peu difficile à craquer, et j'ai espéré trouver des informations sur mon délicat. Mais on dirait presque un ordinateur d'emprunt. Il y a quelques données personnelles, quelques messages dont je ne retrouve pas les destinataires, mais rien qui... « Ah, la voilà !» fit la voix surjouée de Francis. Et le spectre de Marek Escanza, déjà si peu consistant, disparut tout à fait, au profit de la superbe et bien vivante jeune femme de 34 ans qui venait de faire une entrée triomphante. Avec une rapidité étonnante, Francis s'était rué vers elle, et il la serra avec effusion. Contrairement à Abel, qui supportait sans les apprécier outre mesure les grandes accolades et autres claques viriles de son père, Elsée se prêtait à ses embrassades avec ferveur. Ces deux-là s'aimaient, ils s'aimaient vraiment comme un père et son enfant devraient toujours s'aimer. C'était un sentiment pur et évident. Limpide. « Comment fait-elle pour avoir l'air si contente ?» souffla Abel à mi-voix. « C'est parce qu'elle l'est vraiment, » répliqua Alvar. Abel fit un clin d'œil à son frère. « Et toi, comment tu fais pour avoir l'air si... Ne finis pas ta phrase, s'il te plaît, » l'interrompit Alvar en se levant d'un air résigné. Elsée dit bonjour à ses deux jeunes frères, avec une égale attention maternelle, et puis elle se mit à parler, volubile, en regardant surtout son père. Abel passa une partie de la conversation à consulter quelque chose sur son ordinateur de poche. Alvar buvait son apéritif en essayant d'imaginer la tempête au dehors, dont on entendait les rafales sifflantes. La lumière artificielle était de bonne qualité, et l'appartement n'était pas trop sinistre, mais l'odeur de moisissure, qui finissait par vous prendre à la gorge quand tout était clos, commençait à être forte. « C'est une opportunité incroyable. Je crois que je suis vraiment née sous une bonne étoile, » disait Elsée. « mais non, la chance, ça n'existe pas, » dit sentencieusement son père. « Évidemment, » pensait Alvar, « la chance, ça n'existe pas, la malchance non plus d'ailleurs. Naître délicat sur la route, par exemple, c'était la même chose que de naître Elsée Costa, belle, intelligente, riche, aimée. La réussite n'était qu'une question de volonté et de mérite, évidemment. » Il connaissait la tirade par cœur. J'avoue que je n'ai pas trop mal joué ma partie, fit Elsée, mais quand même, le fauteuil de Terence, je n'aurais jamais osé y songer. Est-ce qu'ils t'ont dit ce qu'ils attendaient de toi? Pourquoi ils t'ont choisi, toi? Je n'ai croisé Terence que très brièvement. Il a été très chaleureux, très simple, en même temps plein d'humour, un homme vraiment supérieur. Évidemment, fit son père. Évidemment, fit Abel en écho, avec cette petite touche sarcastique dont son père ne s'apercevait jamais et qui faisait toujours sourire son frère. « Et alors, ta mission ?»« Eh bien, je vais devoir faire mes preuves pendant quelques semaines et j'avoue que je suis un peu paniquée. Mais si j'y parviens, je suppose que je serai tête de liste. »« Aux élections ?» fit Alvar. « Je crois oui, » dit Elsée en tremblant un peu. « Et tu as envie de ça ?» demanda Alvar. « Quelle question !» trancha son père avec agacement. « Évidemment qu'elle a envie de ça. Qui n'aurait pas envie de ça ?»«
Moi, par exemple, » dit-il simplement.
« Oui, mais toi, ce n'est pas pareil. C'est exactement la carrière dont elle rêvait, c'est... »«
J'en ai très envie, Alvar, » l'interrompit Elsée gracieusement, « même si ça me fait très peur. » Abel les regardait tour à tour, avec l'éternelle petite distance qu'il gardait toujours, même avec ses proches. «
Vous m'amusez, »
dit-il alors qu'il passait à table, « à regarder toujours tout par le petit bout de la lorgnette. »«
Le petit bout de la lorgnette !» s'indigna Francis. « Je crois qu'il s'agit plutôt de la cour des grands. »«
La seule chose vraiment importante, c'est qui va gagner cette élection et pour faire quoi. Ce n'est pas de savoir si c'est Élsée, Terence ou Tartempion qui va finalement être élu. »
Francis, estomaqué, choisit de rire.
« Oh, tu en as de bonnes, toi. C'est quand même un peu important pour elle, je pense. »«
Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas important en soi. »
Le silence retomba. Élsée et Francis partirent en cuisine pour préparer la suite du repas, et Abel et Alvar se retrouvèrent seuls.
« Donne-moi un mot, Alvar, n'importe lequel. »
Depuis des années, ils jouaient tous les deux à ce jeu. Ils convenaient d'un mot, de préférence un mot rare, et ils devaient se débrouiller pour le placer dans une conversation avec leur père. Cela les avait sauvés d'un ennui mortel plus d'une fois. Alvar secoua la tête en souriant.
« Turban !» dit-il.
Abel éclata de rire.
« Turban !»«
Turban ! Tu ne viens pas de le trouver, celui-là. »
« Non, avoua Alvar, j'y pense depuis un certain temps déjà. »
« Moi aussi j'en ai un pour toi. Aumône !»
Alvar n'eut que le temps de sourire lorsque Francis et Élsée revinrent.
« En tout cas, tu n'as pas tort, Abel. Cette élection est particulièrement cruciale. »«
Et tu crois qu'on va te laisser penser un peu par toi-même ? » demanda Abel.
« Bien sûr, je participe déjà depuis 3 ans au think tank du parti. Beaucoup de mes propositions ont été adoptées par le comité. »
« Mais là, pour cette élection, tes discours risquent d'être sous contrôle. Qui va te les écrire ?»«
Je ne sais pas, » dit Élsée. « J'ai encore tout à découvrir, en fait. Mais assez parlé de moi. »«
Oh, écoute, si on ne peut pas parler de toi quand il t'arrive un truc pareil, » dit Francis.
« Je ne t'ai pas encore félicité, » s'exclama Élsée. « 13e de ta promotion, c'est sensationnel, Abel, bravo !»«
Et il ne t'a pas dit ce qu'il avait choisi. »«
Le parti ?»
« Non, » répondit Abel, « quelque chose de plus festif, qui me permettra de me déguiser, de porter des lunettes noires, des perruques, des turbans. »
Alvar fut seul à ricaner sous l'œil glacial de son père. Abel était resté très sérieux.
« L'Intelligency ?» demanda Élsée, incrédule.
« Tout juste. »
Elle posa sa fourchette, visiblement affectée.
« C'est très dangereux, Abel. Tu as mesuré toutes les conséquences de ce ch... »«
Mais oui, sœurette, ne t'en fais pas. »
« Tu t'es déjà présenté à l'agence ? » demanda-t-elle.
Abel se passa un doigt sur les lèvres.
« Motus, fit Abel. Je ne vous dirai jamais rien, même si tu es élu. »
Francis regardait son jeune fils avec admiration.
« C'est ça l'agence, dit-il. C'est une culture de la loyauté. »
Alvar commençait à se sentir vraiment de trop. Mais il y eut encore un gigot de soja accompagné de pétales de maïs, du fromage de lait d'amande, une tarte aux pommes de synthèse, un café. Et la conversation comme un manège tourna en rond, entre les souvenirs de Francis et le brillant avenir d'Élsée, le brillant avenir d'Abel et les opinions de Francis. De compliments en confidence, de piques en mouvement d'humeur, les paroles tournaient comme les assiettes, servies, consommées, débarrassées, pleines de graisse figée. Alvar participait de moins en moins à la conversation. Il pensait à autre chose, à la tempête qui gémissait dehors dans une débauche de lumière et d'eau. À son cottage ensoleillé du paradicte, à Marek Escanza, au patron de la caravane. Être ici, enfermé avec sa famille dans cet appartement au volet clos, immobilisé dans la city, lui donnait presque envie de prendre la route. On disait que cela arrivait de plus en plus souvent, que des sédentaires plaquent tout. Il se demanda s'il ne le regrettait pas, amèrement, après.
« Alvar, tu m'écoutes ?
Excuse-moi, papa, j'étais ailleurs. »«
J'étais ailleurs, on se demande bien où ?»
« Sur la route, peut-être, » suggéra Abel.
Francis, Abel et Élsée regardaient Alvar en silence. Ils lui donnaient la parole, là, maintenant, et il fallait qu'ils la prennent, pour qu'ils se sentent tous rassurés.
« Je vois que vous me faites l'aumône de quelques instants d'attention, » dit Alvar.
« Très fort, » commenta Abel à mi-voix.
« De quoi voulez-vous que je vous parle ?»«
Mais de toi, de ta vie, » dit Élsée.
J'étais en train de me demander si les sédentaires qui faisaient le choix de prendre la route en venaient à le regretter.
Francis blêmit.
« C'est un message ? » demanda-t-il. « Tu l'envisages sérieusement ?»
Alvar mit une minute à comprendre que son père le croyait capable de prendre cette décision, ce qui en disait long sur la façon dont il le considérait.
« Mais non, pas du tout, » dit-il d'un air piqué. « J'y réfléchissais, simplement. J'aimerais savoir comment ils passent les tempêtes, par exemple, dans leur roulotte solaire. »
« Tu pensais à ça pendant que nous étions à table ?» demanda Élsée très surprise, mais sans agressivité.
« Oui, quand le cercle me paraît trop étroit, je prends la tangente. »
Abel encourageait toujours son frère dans ses rares moments de rébellion. « Joliment dit, commenta-t-il. « Quoi qu'il en soit, je suppose que c'est l'un de nos derniers dimanches entre nous, continua Alvar. Elzé ne se déplacera plus bientôt qu'avec 3 gardes du corps et aura des repas diplomatiques à répétition. Abel va sans doute partir en mission pour une durée indéterminée. » Francis encaissa la nouvelle. « C'est ma foi vrai, dit-il. « C'est la rançon de la gloire, continua Alvar. Elzé s'était levée pour débarrasser la table et Francis lui avait emboîté le pas. Dehors, la pluie et le vent semblaient s'être calmés. « Papa, il faut que tu fasses quelque chose pour ta cuisine. Toutes ces moisissures, là, ce n'est pas sain. » « Oui, je voulais demander son avis à Alvar. « Je n'ai pas d'avis sur les moisissures, papa. Et puis la tempête s'est calmée, je ne vais pas tarder à y aller. » Elzé regarda son jeune frère de manière pressante. « Tu ne veux pas faire un effort, jeter un simple coup d'œil ?» Elle avait toujours eu l'art de tirer les ficelles et de protéger son père. « Non, Elzé, j'ai eu ma dose, et puis j'ai mes propres moisissures à la maison, je n'ai pas besoin de celles de papa. » Il embrassa son frère, sa sœur, et serra la main à son père. « À une prochaine, dit-il en partant. » Derrière la porte, il entendit leur voix plaintive. « C'est toujours pareil, disait Francis, il n'est jamais content quoi qu'on fasse. « Tu parles comme si tu faisais beaucoup pour lui, qu'est-ce que tu as fait pour lui aujourd'hui ? » demanda Abel. « Abel, moi aussi je l'aime beaucoup, mais avoue qu'il est difficile, dit Elzé. » Alvar n'entendit pas la suite, il la connaissait. C'était presque toujours ainsi que se terminaient les dimanches en famille. Au dehors, les rues étaient encore plus désertes qu'à l'accoutumée. Il tombait des trombes d'eau par paquets espacés, et le vent était encore suffisamment puissant pour donner l'impression d'une résistance quand on marchait. Mais Alvar se sentait libre, heureux que les éléments lui donnent l'impression d'être vivant. Il avait l'étrange impression que ses relations avec son père étaient tombées dans une ornière dont elle ne pourrait plus sortir. Elles étaient fixées pour l'éternité, exactement comme s'il était mort. Ce fut une prise de conscience abrupte. Jusque-là, Alvar avait toujours attendu quelque chose. Une reconnaissance tardive, un mot de rédemption, un éclairage nouveau qui donnerait un sens moins terrible à cet échec familial. Mais elle venait de comprendre que ce qu'il avait toujours attendu n'arriverait jamais et qu'il devait cesser de l'attendre. Son père ne s'intéressait pas à ce qu'il était. Il n'était capable de voir en lui qu'une seule chose, le fait qu'il n'était pas conforme à ses attentes. Alvar aurait voulu lui exprimer, en une seule traite, d'un coup violent, toute la poésie qu'il connaissait par cœur, tous les mots tendres qu'il inventait pour Elina, tout le respect dont il jouissait à la brigade. Il aurait voulu lui envoyer à la figure toutes ces années d'observation silencieuse et méticuleuse qu'il avait rendu si bon dans son domaine, mais toutes ces choses qui le constituaient n'étaient que de la fumée pour son père. Alvar n'avait aucune réalité à ses yeux. Il était un manque, un trou, un raté, pas un être plein et parfait comme son frère et sa sœur, seulement un brouillon, une esquisse, un mort-né. La tempête cessa brutalement, comme souvent, alors qu'il prenait l'interurbain. Et Alvar, en refaisant surface à la tombée de la nuit, put entendre le chant déchaîné des grenouilles ivres d'orage. Le paradicte, un flot de lumière et de beauté. Elina était bien réveillée et portait sur sa nudité un simple voile brodé dont Alvar apprécia les effets de transparence aux rayons printaniers. « Ah, te voilà enfin !» s'exclama-t-elle, et elle vint se pendre à son cou et poser sur ses lèvres un baiser humide qui accéléra ses battements cardiaques. « J'ai eu un dimanche très pénible, » dit-il. « Tu étais chez ton père ?»«
Oui. »
Il lui prit la main pour la faire tourner devant lui. Elle portait aussi des boucles d'oreilles en émeraude qui attrapaient la lumière avec une singulière splendeur. « J'ai passé toute la journée à me demander ce que je faisais là, à avoir envie de me... déconnecter. »« Te déconnecter du monde réel ?» dit Elina en souriant. « Oui. » J'avais l'impression que tout était statique, bloqué, que ma présence là-bas n'avait pas de sens. Je n'arrivais même pas à me concentrer sur mes propres sensations. Je n'ai écouté que le quart de la conversation. « Cela t'arrive souvent ?»« J'ai l'impression que cela m'arrive de plus en plus souvent, surtout quand je suis en famille. »« Tu as envie d'en parler ?»« Non, dit-il. J'ai envie de tourner la page et de profiter de toi et de ces quelques heures de liberté. »« Aujourd'hui, je n'ai pas travaillé et j'ai architecté une nouvelle pièce. » dit-elle avec un sourire espiègle. Architecter était un néologisme qui s'était imposé avec le paradicte, où l'on pouvait inventer et configurer l'espace à sa guise, à la manière d'un dieu. C'est vrai, ou ça ? Il faut que tu la trouves. Alvar adorait les énigmes. Il fit le tour de la maison et ne repéra rien de nouveau. Il ouvrit pourtant tous les tiroirs, tous les placards, tous les meubles. Il passa en revue tous les objets d'art créés par eux ou glanés dans leur pérégrination. Les plantes rares, les machines étranges dont il ne comprenait pas le fonctionnement, et beaucoup d'objets magiques dont Elina faisait la collection. Il passa dans la chambre aux cheminées, où crépitait un éternel feu de bois, dans la chambre avec vue sur mer, dans la chambre vaisseau spatial où l'on pouvait admirer du grand hublot des quasars et des nébuleuses, des géantes rouges et des naines bleues. Mais les escaliers n'avaient pas changé de place, et il ne trouva aucun passage secret. Le jardin, qui possédait sa cascade tropicale avec une vasque d'eau chaude, sa piste de patins à glace, ses chaînes centenaires, ne semblait pas s'être agrandi. Alvar faisait l'inventaire de tout, suivi pas à pas par Elina, qui, facétieuse, lui arrachait parfois un baiser.
« Mais où peut bien être cette pièce ?» demanda Alvar. « Je te donne un indice ?»«
Oui, elle est sur moi. » Alvar sourit. Il saisit délicatement l'une des boucles d'oreilles d'émeraude et commença à l'observer et à la tourner dans tous les sens. Les objets dans le paradicte pouvaient recéler des mondes, se transformer en animaux ou avoir des conséquences directes sur l'environnement. Il fallait parfois activer un mécanisme ou prononcer une formule, parfois même simplement les plonger dans un certain liquide ou les placer à un certain endroit. Ces objets magiques faisaient tout le précieux ADN du paradicte. Ils apportaient à chaque instant la jouissance onirique de cet univers infiniment délivré des règles. Chaque ange, selon la mesure de ses capacités, pouvait apporter sa pierre à l'édifice et créer des objets, des plantes, des créatures ou des lieux. La maîtrise de l'encodage et l'imagination étaient les seules limites. Elina riait en voyant Alvar se débattre avec l'émeraude. Lorsqu'il l'eut mouillée, frappée, brûlée, mise dans sa bouche, lorsqu'il lui eut parlé, lorsqu'il eut essayé de la placer à 1000 petits endroits spéciaux de la maison, elle lui donna en éclatant de rire un second indice. « Ce n'est pas l'émeraude !» Alvar n'eut pas l'embarras du choix, car la seule autre chose qu'elle portait était son voile. Il le dégrafa avec une sensualité délibérée et prit le temps de lui faire l'amour avant de s'occuper du mystère. Elina était tendre et d'une sensibilité à fleur de peau. Elle réagissait aux caresses avec une ardente propension au plaisir. Alvar ne s'était jamais lassé d'elle et n'imaginait pas qu'elle pourrait le lasser un jour. « Depuis combien de temps n'as-tu pas fait l'amour dans le monde réel ?» lui demanda-t-elle. « Depuis très longtemps. Est-ce que cela te dérange ?»«
Non. »
Il savait qu'Elina était mariée dans le monde réel et qu'elle avait deux enfants. C'était d'ailleurs le cas de la plupart des anges. Parfois, il s'imaginait bigame avec une femme dans chaque vie, un cœur dans chaque univers. Avec qui prenait-elle le plus de plaisir ? Avec son mari ou avec lui ?«
Tu as oublié ma nouvelle pièce ?» lui demanda-t-elle, après un long moment silencieux, où ils étaient demeurés sereins, sous la caresse d'une brise légère, les yeux suivant les évolutions des libellules bleutées et des grands oiseaux qui planaient.
Il se leva et se saisit du voile, dont la transparence se moirait maintenant de reflets. Il l'agita devant lui, et, l'étalant à plat sur le gazon comme une nappe, il laissa échapper un cri d'admiration lorsque ce rectangle fluide et mouvant se figea en une fenêtre qui s'ouvrait sur une salle de palais. « C'est mieux lorsqu'on le positionne verticalement, » conseilla Elina. Docile, Alvar obéit et reprit le voile pour le tendre à une branche. La fenêtre était maintenant dans le bon sens et, à sa hauteur, frémissant d'un plaisir enfantin, il en poussa le battant et entra. La salle était à couper le souffle. Elina faisait des progrès remarquables en architecture. Il s'agissait d'une salle circulaire, comme on en trouve dans les tourelles, garnies de plusieurs fenêtres ogivales, dont certaines ornées de vitraux multicolores. Des colonnettes, fines et sculptées toutes d'un motif différent, soutenaient un plafond à plusieurs pans, sur lesquels étaient calligraphiés, noir et or, des mots et des bouts de poèmes. Leurs chapiteaux gracieux exhibaient des personnages délirants en bas-relief. Des étages circulaires épousaient la forme des murs, et leurs rayons débordaient de livres. Alvar parcourut les titres des volumes de cuir superbement illustrés, des recueils de poésie du XIXe et XXe siècle. Alvar en ouvrit un au hasard et tomba sur ces lignes de René Char. « La liberté naît, la nuit, n'importe où, dans un trou de mur, sur le passage des vents glacés. » Il ferma les yeux et reçut en silence le choc esthétique de ces mots,
songeant vaguement à sa marche solitaire dans la queue de la tempête tout à l'heure en sortant de chez son père, puis ses yeux se posèrent quelques lignes plus loin. Dans les rêves du sommeil, on improvise l'amour, on force la douleur dans l'épouvante, on se meut parcellaire, on rajeunit avec une inlassable témérité. « Cette pièce, c'est pour moi ?» demanda Alvar. Elina avait pénétré à sa suite dans la tourelle. Elle contemplait la vue, un paysage forestier à travers les prismes colorés des vitraux. « Oui, » dit Elina, « je te fais cadeau du voile. » Alvar faisait le tour des colonnettes qui transformaient cette tour en une sorte de nef d'église. Ses yeux étaient irrésistiblement attirés vers une alcôve de pierre, juste sous une fenêtre, tapissée de velours épais. Personne ne lui avait jamais, de sa vie, fait un cadeau aussi somptueux. Il leva la tête. La phrase « La poésie se fait dans un lit comme l'amour » scintillait au centre du plafond, avec des caractères si contournés qu'ils ressemblaient presque à des arabesques abstraites.